Donc nous sommes le lundi 23 novembre 2015. Nous sommes en présence de Gilbert Hartmann, de Luc Verrier, ingénieur du son, de Pierre Bonneau, bibliothécaire, et de Jean Neufzanzotto, bibliothécaire. Et nous sommes accueillis au Frigo de Paris. Alors monsieur Hartmann, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant la création de l'Arfri en 70, vos origines, vos études, vos origines familiales?
Bon, tout devrait être assez rapide. Déjà, bienvenue à vous. Hein, mais les origines, moi, je suis né à Livarot, en Normandie, petit village bien agréable.
En quelle année?
44, oui. ça fait pas mal de bruit avant. C'était une ville qui a été... Enfin, tout autour de cette ville, ce village, c'était assez destructeur. Je ne m'en rappelle pas vraiment. Enfance sans encombre, famille agréable, fils d'immigrés polonais qui avait pas mal voyagé et qui, au moment de partir aux États-Unis, c'est-à-dire la route du Havre, est resté un petit peu. Il a travaillé sur le Normandie en fait, en tant que décorateur, et au moment de la guerre, il est venu se réfugier dans ce charmant village. Voilà. Ensuite, les études, c'est assez bref. Au décès de mon papa, je suis parti au Havre, je vais avoir 16 ans et demi, 17 ans. Et petit boulot. Et en revanche, je pense que dès l'âge de 13-14 ans, il y avait une émission de jazz à la radio, un peu tard le soir. Et je crois que la première écoute, ça a été ici, le premier engouement pour ces musiques-là, une chose qui s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz », avec... un thème des Jazz Messengers, le Blue March, qui a rythmé, marqué un peu mon enfance. Donc j'allais une fois par semaine un peu dans une ville un peu plus grande, ou une fois par mois, et donc je pouvais acheter les journaux, la littérature qui parlait, enfin il y avait Jazzot et Jazzmag donc à l'époque, et donc je suivais ça très attentivement. Mais sans espoir de devenir musicien ou tout ça, c'était pas mon propos, c'était simplement ces musiques-là qui me plaisaient vraiment. Je crois que vers, je peux dire précisément, à 13 ans et demi, j'ai eu mon premier électrophone, donc la possibilité de faire des surbooms.
Vous avez souvenir des premiers disques que vous avez achetés ?
Les premiers disques, oui. C'est mon frère qui travaillait déjà à Paris à l'époque, m'avait ramené des Ray Charles, il y avait les Eternal Platters, bien entendu, et quelques autres disques. Mais surtout les mémoires, c'est on avait une amie qui était abonnée à la Guilde du Jazz. Et qui avait, je ne sais pas comment, parce que ce n'était pas tellement... mais qui avait un Charlie Parker qui était assez époustouflant. Et donc voilà, en fait, c'était entre le rock, j'avais un disque d'Elvis Presley également, et c'était un petit peu entre le rock et le jazz comme ça que les choses évoluaient sans... Voilà, mais je jouais pas du tout et j'avais pas du tout l'intention de faire de la musique à cette période, si ce n'est que je tapais sur tout ce qui passait à ma portée, musicalement bien entendu. Voilà. Ensuite, donc au Havre, j'ai eu l'occasion. Donc, j'avais pas de batterie, mais il y avait un club de jazz qui était une espèce de boîte à marins un peu glauque, mais où il y avait d'excellents musiciens. Non, des musiciens, c'était les musiciens qui accompagnaient une chanteuse, Isabelle Aubray, mais qui étaient vraiment des musiciens de jazz, je dirais. Enfin, c'est comme ça que je les envisageais, accomplis, et je pense que c'était le cas. Et il y avait Alain Lemeur qui a fait, je crois, des disques et des choses comme ça, qui ont accompagné, lorsqu'il était venu au Havre, vous avez fait la première partie de Stéphane Grappelli. Et voilà, donc les premières fois où j'ai touché la batterie, c'est le batteur qui, lui, était droitier, me laissait jouer sur quelques morceaux pendant que lui allait au bar ou avait d'autres occupations. Et donc c'était mes premières expériences, mais dans la mesure où moi je suis gaucher, donc dès le départ je me suis habitué à jouer à droite, ce qui fait que ça m'a laissé un truc. Mais j'ai toujours été un gaucher contrarié de toute façon. Et ça faisait peut-être un jeu un peu bizarre, mais bon, pour moi, je m'en contentais. Apparemment, ça fonctionnait. Donc, voilà, ça, c'est les premières expériences un petit peu musicales. Et de vie également, parce que c'était une boîte un peu particulière quand
Vous vous souvenez
même.
le nom
Donc,
de cette boîte?
le Café de l'Europe. Voilà. C'était sur une boîte du port, en fait.
Et donc ensuite, après, qu'est-ce qui se passe?
Après, on se fait un peu à jouer à des expériences un petit peu musicales. Après, à l'époque, il y avait l'armée. Donc, en province, on ne savait pas qu'on pouvait se faire réformer. C'était pas trop mon trip, mais donc j'ai fait le temps d'armée un petit peu, 16 mois à l'époque, ce qui était quand même beaucoup, avec le temps de s'ennuyer, où j'étais pris un petit peu en tant que. Fait des décorations pour des pièces de théâtre à l'armée, qui n'avaient rien de réjouissant. Et ça me permettait de continuer un petit peu avec quelques amis musiciens, mais à jouer comme ça, voilà, épisodiquement.
Du jazz uniquement?
Oui, mais ce serait beaucoup dire, jouer du jazz, oui, c'était jouer, parce que de toute façon, je ne savais pas vraiment jouer autre chose. Une fois, on m'avait demandé d'accompagner un orchestre qui faisait un peu du bal, comme on dit. Et donc, ils se sont aperçus que une valse, je jouais un peu enfin, l'idée Take Five me semblait évident. Donc, on m'a confié la contrebasse, qui était moins brillante. Mais ce sont des expériences comme ça, quoi.
Et après l'armée.
Après l'armée, comme un petit peu tout à chacun, on a envie de monter à Paris. Et donc là, c'était. J'allais de temps en temps à Paris, en fait, parce que j'avais vu à l'époque, j'étais encore. J'avais vu Louis Armstrong à l'Olympia, j'avais vu Ray Charles de la même façon, Errol Garner. Mais c'était toujours dans des concerts un peu. C'était l'Olympia, c'était. Vraiment le concert habituel, qui n'avait rien de vraiment festif. En revanche, quand je suis arrivé à Paris, c'était la découverte de plein de choses en même temps, c'est-à-dire la poésie à la contrescarpe, avec des choses merveilleuses qui s'y passaient. Il y avait aussi, bien entendu, les clubs de jazz et la découverte d'un lieu qui m'a profondément marqué, qui était le Chaki-Pêche à l'époque, où les musiciens qui s'y produisaient, ça c'était le début c'est pas le début du free jazz, mais pour moi c'était ce début qui ouvrait vraiment d'autres possibilités, d'autres façons de penser. Une première approche, pas forcément consciente du politique, enfin je sais pas, oui c'est la vie quoi. Mais avec des moments marquants de musique. Ça veut dire il y a des moments où on ne peut plus vraiment faire marche arrière, même si j'étais toujours pas vraiment un musicien, c'est-à-dire, et j'en avais pas non plus ni l'impression d'en avoir les capacités, ni vraiment un désir, mais c'était plutôt de pouvoir m'entourer d'une certaine façon des musiques qui me plaisent et de me donner les moyens un jour ou l'autre de pouvoir accueillir des musiciens et pas d'autres prétentions que cela. Donc, en même temps que je travaillais, dès qu'il y avait du moment, en plus les boîtes étaient très agréablement fréquentées donc à cette période-là, et c'était je dirais, à partir de 10 heures du soir, d'une vie qui était vraiment passionnante. Le problème, c'est que le lendemain matin, il fallait... Je laisse en suspens parce que ça semble évident.
Vous avez des souvenirs de musiciens, plus particulièrement à l'époque du Chat qui pêche, qui vous ont vraiment marqué
Oui, bah, il y avait énormément de choses. En fait, il n'y avait pas, en plus, il n'y avait pas que le Chat qui pêche. Il y avait déjà des concerts un peu, pas forcément marginaux. Il y avait des concerts assez régulièrement à l'ERTF, qui était, voilà, qui était un peu, et en plus, qui n'était pas si sérieux que ça. C'était moins sérieux à l'époque, je pense, d'aller à un concert dans la Maison Ronde que maintenant. Non, c'était des moments comme ça, passionnants. Et puis, en parallèle, donc, du Chat qui pêche ou de cette rue de la Huchette où il se passait pas mal de choses, il y avait un restaurant où il y avait un excellent couscous, il s'appelait Al-Jazaïr, où là, j'ai découvert les musiques. Alors, on peut pas... Alors, c'était assez particulier parce que c'était la musique arabo-andalouse, mais c'était fait un peu comme, là aussi, comme dans une ambiance de boîte, dans une ambiance, il y avait des danseuses du ventre, des soufis qui servaient le thé en tournant, enfin, des choses un peu particulières. Et en fait, il y avait un jeu comme ça entre, je dirais, entre... La Contrescarpe, Maubert, les clubs de jazz. J'avais joué aussi un peu à la Cigale, lieu qui maintenant est voué au PMU et à la musique rock et variée. Il y avait un club qui s'appelait la Cigale, où il y avait Benny Water qui jouait, et c'était, ah, je ne vais pas me rappeler le nom, du Jack Butler. Et donc là, ça m'est arrivé également de frapper les pots comme ça. Je crois que j'ai même dû faire quelques remplacements au pied levé comme ça. Mais tout ça, c'était plus une ambiance, en fait. C'était une vie agréable. Je ne parle pas ça comme un... Mais c'était... Ouais, ça vivait agréablement.